Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous suivez actuellement les 85 radios partenaires du Studio Tamani. C'est l'heure de vos informations, dont voici les titres. Le vol de bétail est un effet collatéral de l'insécurité. La récurrence du phénomène déstabilise les éleveurs au nord et au sud du pays. Les populations tirent la sonnette d'alarme et exigent plus de sécurité. La production de sésame génère plus de 50 milliards chaque année au Mali. Les acteurs du secteur ont échangé hier pour booster la production. Le commerce sur le bateau est bénéfique pour les femmes. Elles sont près d'une centaine de commerçantes à vivre de cette activité sur le grand bateau Tombouctou entre Mopti et Dire. Voilà pour les sommaires de cette édition matinale. Une présentation d'Imrana Kilomaïka. Depuis l'avènement de la crise sécuritaire, des vols récurrents de bétail sont signalés un peu partout dans le pays. Du nord au sud, en passant par le centre, des milliers de têtes disparaissent dans la nature. Dans la majeure partie des cas, les bétails ne sont plus retrouvés. Dans certaines localités, des initiatives sont créées pour mettre fin au phénomène. Reportage de Mamadou Samaseko avec la voix d'Adama Amadou Haïdara.
J'ai été victime des vols de plusieurs de mes bétails. Cela s'est passé le jour de l'attaque de la localité de Boadjé. Notre souhait est de récupérer nos bétails, sinon que les autorités nous viennent en aide.
Comme ces propriétaires de bétail dans le centre du pays, des victimes de vols de bétail regrettent que les auteurs de ces actes soient sans inquiétude. Cependant, à Bafoulabé et Maïna, dans la région de Kaï, des initiatives commencent à porter fruit. Il s'agit de la mise en place d'une brigade, explique Adama Bandjougou Sissoko, maire de la commune rurale de Maïna.
La brigade de gendarmerie qui est là, au minimum, tous les jours, on les amène 5 voleurs, ou bien on leur donne des informations, eux-mêmes, ils mènent des enquêtes. Et nous ne faisons que les encourager, surtout en carburant, pour donner satisfaction à la population.
Au nord du pays, les régions de Menaka et Tombouctou subissent le plus de cas de vol. La société civile lance la sonnette d'alarme. Boubacar Mohamed Meïga, du collectif Tombouctou, réclame ses droits.
Mais ce qui est étonnant, c'est que dans cette mosaïque, l'armée malienne, les FAMA, les groupes armés, signataires ou non, tous ceux-ci sont dans cette zone et que des troupeaux qui sont conduits à pied puissent échapper à coups de centaines et des milliers. C'est inadmissible. Aujourd'hui, nous devons scruter une approche communautaire globale pour essayer de voir comment il faut apporter une solution à ces problèmes.
En novembre dernier, lors d'une patrouille, ce sont plus de 600 têtes de bétail que l'armée malienne a repris des mains des groupes armés terroristes dans une localité du centre du pays.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La journée nationale du sésame a été célébrée ce jeudi 15 décembre 2022 à Bamako. Le thème choisi pour cette première édition est l'employabilité des jeunes et des femmes, une préoccupation des acteurs de la filière sésame. Selon le ministère du Développement rural, la culture du sésame génère plus de 50 milliards de francs CFA au Mali. Toutefois, les responsables du secteur demandent aux autorités d'investir davantage dans ce domaine. Cette journée est organisée en partenariat avec le Luxembourg. Le détail dans ce reportage de Sita Sidi.
Le secteur du sésame occupe un rang important dans l'économie nationale avec plus de 50 milliards de revenus annuels, a indiqué Soumaïla Koulibaly, président de l'interprofession de la filière des sésames au Mali, ISMA.
La culture du sésame au Mali aujourd'hui est très très importante à plusieurs titres. Ça impacte plus de 450 000 familles en milieu rural. Aujourd'hui, la production nationale du sésame, selon nos estimations, est d'environ 60 000 tonnes de sésame, ce qui peut générer un chiffre d'affaires d'un peu plus de 50 milliards.
Cependant, la transformation de ces produits est toujours confrontée à certaines difficultés, a regretté Mme Kanouté Fatoumata Sidibé, présidente des femmes transformatrices du sésame au Mali. Elle explique qu'elles ont besoin d'un appui en formation et en équipement.
Notre difficulté, c'est la formation, les matériaux de transformation pour qu'on puisse avoir des produits adéquats et être sur un plan international. On ne peut pas être compétitif quand on n'a pas un produit de bonne qualité. La richesse du Mali ne viendra que de la terre.
A rappelé qu'un porte-étendard a été décerné au ministre du Développement rural, Modibo Keïta, en signe de reconnaissance pour l'organisation de cette première édition de la Journée nationale du sésame.
Le commerce est une activité lucrative pour beaucoup de commerçantes sur le bateau de la Comanave. Tout au long de la campagne fluviale, elles se ravitaillent à partir de Koulikoro, Ségou et Mopti pour ensuite les écouler au nord du pays. Elles sont près d'une centaine qui vivent de cette activité. Zoom sur cet autre navire de commerce sur le fleuve Niger. C'est un reportage d'Arkia Touré.
Parmi les produits transportés dans le bateau, on peut facilement distinguer les centaines de sacs de fruits et légumes qui occupent les allées et chaque coin du bateau. Fatmata Traoré est commerçante. Depuis 20 ans, elle fait face à une multitude de situations.
On peut dire que c'est rentable puisque j'ai pu construire une maison avec ce que je gagne. Des fois, il n'y a pas de marché et toutes nos marchandises pourrissent. Ça dépend du départ du bateau parce que le premier et deuxième coïncident qu'il n'y a pas assez d'eau dans le fleuve. Et les bateaux aussi font beaucoup de temps en route, c'est ce qui nous fatigue.
C'est pendant la navigation du bateau que les populations du Nord sont mieux ravitaillées en produits nature. Une activité qui permet de faciliter les échanges commerciaux, dit le président de la coopérative des commerçants du bateau à l'Outembiné.
De l'orange à l'arachide jusqu'à la banane, en quelque sorte tous les fruits qui ne se trouvent pas au Nord, nous le prenons au Sud pour le revendre au Nord.
Les tabliers sont aussi présents sur le bateau. Ils vendent d'autres produits de nécessité à bord. Alassane Hammamaiga, tablier.
Je réside à Mopti, mais quand les voyages des bateaux commencent, je fais des allers-retours avec. Tant que le bateau marche, je gagne un peu. Ça nous aide ainsi que les clients aussi.
Les femmes commerçantes souhaitent de l'aide pour pouvoir mener cette activité toutes les saisons. Arkia Touré, à bord du bateau Tombouctou, pour Studio Tamani.
Le monde a célébré le 10 décembre dernier le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration stipule que tous les êtres naissent libres et égaux au Mali. Mais au Mali, l'esclavage par ascendance continue d'exister malgré l'interdiction de la pratique par les lois du pays. C'est dans la région de Kaï que le phénomène persiste malgré sa dénonciation par des organisations de défense des droits de l'homme et les associations anti-esclavagistes. Le reportage de Mamadou Samaseko.
Fils de l'une des victimes de cette pratique, Lassine Konati est le porte-parole de la cellule de Bamako de l'association Gambana, une organisation anti-esclavagiste. Il soutient que l'éveil des consciences ne conçoit plus ce genre de pratique.
Refuser d'être considéré comme esclave, je ne pense pas que cela soit une raison de mépris ou d'expulsion ou encore d'extrême violence. Ce message, on le fait à l'endroit des chefs de village. Ils ont beau gérer des parents ou des grands-parents, qu'ils sachent que les enfants de ceux-ci, qu'ils prétendent d'être des esclaves, les esclaves ont aujourd'hui pris conscience de la situation. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de se méfier des propos qualifiant l'esclavage comme faisant partie des us et coutumes. Loin s'en faut.
Des traditionalistes estiment qu'il s'agit plutôt d'abandonner les pratiques malsaines. Selon eux, il faut préserver certaines pratiques ancrées dans nos sociétés. Omar Kouaté, président du réseau des communicateurs traditionnels Récotrade de Caille.
C'est une pratique coutumière vécue des siècles. Donc on ne peut pas du revers de la main balayer tout ça. Mais s'il y a des pratiques inhumaines dégradantes, on peut extraire ces pratiques-là et tout de suite revenir sur des bases saines. Alors, parce que notre société, elle est bâtie sur la reconnaissance des valeurs de l'autre aussi. Parce que nous avons été d'abord une nation avant d'être l'État. Alors, donc, nous devons cohabiter ensemble. Aujourd'hui, l'esclavage par ascendance et le conflit qui est lié à ça a tendance à disparaître.
La Commission nationale des droits de l'homme mène une lutte sans merci contre l'esclavage par ascendance. Pour la CNDH, le phénomène est une réalité et constitue un facteur de violence entre les communautés. Omar Touré, représentant régional de la CNDH, à Kaï.
Nous savons très bien que la pratique de l'esclavage par ascendance dans la région des Kaï est réelle et se manifeste malheureusement par des violences, des milliers de déplacés internes. Et nous avons cherché à ce qu'il y ait une loi criminalisant la pratique. Et actuellement, pour la relecture du code pénal, je crois que c'est pris en compte.
Le sociologue Fouji Tandjougoura propose aux autorités l'affranchissement symbolique pour arriver à bout du phénomène. Il ajoute que les lois et autres actions judiciaires ne seront pas suffisantes face au phénomène.
Nous disons qu'il faut faire la promotion de l'affranchissement symbolique. On a vu ça dans certains villages à Kaï. Ceux qui sont considérés comme esclaves se réunissent, vont voir ceux qui sont supposés être leurs maîtres pour demander leur affranchissement symbolique. On paie des cadeaux rituels. La communauté maître accepte leur affranchissement et le problème est fini. Souvent, on donne même des enfants en mariage. La deuxième chose, c'est que même si on relit le code, ça ne suffit pas. Il faut sensibiliser en profondeur.
L'esclavage par ascendance est une pratique séculaire dans certaines régions du Mali, reconnaissent des observateurs. Mais ces derniers estiment qu'avec l'évolution du monde, tout doit être mis en œuvre pour arrêter le phénomène, faute de quoi il peut engendrer des conflits entre communautés.
C'est ce qui met fin à cette édition matinale présentée par Imran Akilo Maïga. Vous pouvez également écouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org. créé le 10 février 2000 par l'ordonnance numéro 0012 PRM. Le centre pénitentiaire de Bolé accueille précisément les mineurs et les femmes en conflit avec la loi. Aujourd'hui, nous parlerons des bébés de détenus qui grandissent à Bolé, une réalité peu connue du monde extérieur et qui suscite des interrogations. Comment ces prisonniers innocents se retrouvent avec leur mère en prison? Comment évoluent-ils? Autant d'interrogations qui seront répondues dans ce magazine « Tous les enfants du Mali » présenté par Mariam Koulibaly.
Nous voilà devant la prison de Bolé. Les portes s'ouvrent. Après le contrôle d'usage, le chef de peloton nous accueille dans la cour des détenus, mais aussi leurs enfants. Le bureau de la directrice est contigu à la crèche qui les accueille. On y compte actuellement 14 garçons et 10 filles. À la question de savoir comment sont-ils arrivés là, Madame Kumba Tangara, directrice de la crèche de Bolé, répond.
Ici à Bolé, soit les femmes nous viennent étant enceintes, soit elles viennent avec des enfants. Mais même là, elles n'accouchent pas au sein de Bolé. Nous avons une infirmerie, mais quand leur travail commence, la responsable de l'équipe des gardes fait appel à l'infirmière en question. Et en ce moment, le chef service social sera là également pour les faire évacuer au niveau des centres de référence ou en tout cas vers un centre de santé au dehors pour que la femme accouche là-bas.
La vie de ces enfants en prison se passerait bien selon la directrice de la crèche. Ils ont des jeux d'éveil, un régime alimentaire bien enrichi. Mais il faut noter que c'est grâce aux bonnes volontés que tout cela est possible, car l'État n'a pas prévu de ligne budgétaire pour ces détenus innocents, signale Madame Tangara.
Mais une fois que les enfants sont à la crèche ici, il y a le balançoire, il y a le toboggan, il y a la manèse, donc les enfants, ils jouent très bien. Le lundi, c'est la soupe aux poissons. Le mardi, c'est le bouillon. Le mercredi, c'est les pâtes alimentaires. Le jeudi, c'est le lait au chocolat avec du pain, soit du gâteau, ce qu'on aurait. Et le vendredi, c'est la soupe aux viandes hachées. Le samedi, c'est le bouillon également. L'ONG en question, même qui nous épaulait, qui nous donnait les prix des condiments, l'ONG est partie, ça fait 2 ans, sinon 3 ans même. Tout le monde sait qu'une femme, quand elle est en prison, en situation de détresse, souvent même, il n'y a pas de lait maternel. Quand les femmes sont en prison, la majeure partie de ces femmes-là sont abandonnées par leur époux. Donc, comment elle va surmonter la prison et pouvoir prendre en charge le plan nutritionnel de son enfant?
Les textes qui régissent le centre de détention disent qu'à 3 ans, l'enfant doit être séparé de la maman pour son épanouissement. Si aucun membre de la famille n'est prêt à l'accueillir, il est référé dans un centre d'accueil, poursuit Madame Tangara.
Et là, nous seuls, on ne peut pas faire cela également, amener l'enfant vers un centre d'accueil. Nous partons vers le juge des enfants qui établit une ordonnance de placement. Et avec l'ordonnance de placement, nous nous rendons avec l'enfant, avec le centre d'accueil, et l'enfant sera placé là-bas. Mais une fois ou deux fois par mois, le centre en question amène l'enfant ici au centre pour que l'enfant passe la journée avec sa maman. Donc, quand la maman purge sa peine, nous repartons encore vers le juge des enfants qui établit une autre ordonnance de main levée pour que le centre aussi nous rende l'enfant et que nous, à notre tour, nous rendons l'enfant.
Pour avoir vécu dans ce milieu carcéral pendant des mois, cet ex-détenu qu'on va appeler Madjan a une autre version de l'histoire. Elle juge insuffisant ce soutien alimentaire et dénonce le manque de soins sanitaires.
Nourrir un enfant dans la prison, c'est un problème. Pour nous faire entendre, on a fait des semaines à bouder les aliments dédiés aux enfants de la crèche. Les responsables de la prison ont fait comprendre que l'État ne prend pas en charge les frais alimentaires des enfants. Ce que je déplore aussi, c'est la séparation de l'enfant et de la mère. Quand les mamans ainsi que les enfants tombent malades, il n'y a pas de médicaments. Des mamans se partagent une bouteille de sirop. Les femmes enceintes, les mamans souffrent là-bas.
Dans beaucoup de prisons au Mali, il y a des cellules occupées par des femmes et leurs enfants qui ont écopé une peine minimale. Avec la réhabilitation de certaines prisons, des compartiments sont en train d'être aménagés pour préserver la dignité de la femme et la sécurité des enfants. C'est la fin de ce magazine. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.